Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Oui, Monsieur Saunier?
Oui, bonjour, M. Saint-Jean.
OK, bonjour, M. Saunier. Il y avait un problème, là, c'est réglé.
Bon.
Alors, re-bienvenue à cette émission-là.
J'ai écouteurs d'oreilles, donc ça va bien.
OK, d'accord, d'accord. Fait que je vous ai introduit tout à l'heure. Fait que, chers auditeurs, auditrices, ça commence. On fait la deuxième partie de l'entrevue avec M. Saunier. Il restait deux questions à ajouter aux deux questions de la semaine dernière. D'abord, en résumé, on avait dit que le potentiel éolien est fantastique au Québec. C'est le deuxième plus grand au monde et c'est surtout au Moyen-Nord, je crois. Et puis, malheureusement, dans la tendance actuelle, il y a une privatisation de ce bien commun. On a parlé de ça. Fait que on était rendu peut-être à se demander, l'Hydro-Québec, c'est un héritage à conserver, mais ce gouvernement majoritaire semble faire ce qu'il veut sans écouter les populations. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour corriger le tir, si c'est possible?
Écoutez, c'est une vaste question. Je crois qu'il y a un intérêt de la part de la société civile à discuter tous les aspects de la politique énergétique qui semble se mettre en place actuellement à travers les annonces qui sont faites depuis déjà presque 2 ans de modifications costaudes à la loi d'Hydro-Québec et à celle de la Régie de l'énergie. Donc, on avait abordé la question du fait que la Régie de l'énergie n'a aucun pouvoir sur les activités de production. On avait commencé à parler de la forme que pourrait prendre cette participation citoyenne. Évidemment, parmi tous les aspects à discuter, il reste la grande question de la question de la réduction à la source. On parle beaucoup de la notion de sobriété qui revient dans le discours public depuis quelque temps, mais on constate tous que quand même, il y a la taille des véhicules qui s'accroît, les émissions annuelles de GES du secteur s'accroissent. On a vu arriver depuis moins de 2 ans des nouveaux projets industriels privés plutôt voraces en consommation d'énergie et en puissance. Tout ça se dessine stimulé par de nouvelles options de financement public dont les critères de performance énergétique et environnementale ne sont pas particulièrement transparents, on va le dire comme ça. En fait, la sobriété, ça reste un concept énergétique très important dans le déploiement des infrastructures énergétiques. Mais ce concept a beaucoup de difficultés à prendre racine et à intégrer la vie quotidienne des Nord-Américains, grands consommateurs de produits de toutes sortes. Et c'est pas c'est aussi le cas au Québec. Quoi. Ça reste un mot fourre-tout, en fait, la sobriété, mais qui recouvre, en fait, toutes sortes de gestes qui ont été clairement identifié depuis des décennies. Il faudra en reparler, sans doute. Mais c'est l'idée de réduire, réutiliser, réparer, recycler. Hein. Tout le monde les a entendus, ces termes-là, depuis très longtemps. Et tout le monde sait ce qu'ils signifient, ces termes pour la consommation de biens et de services qui impliquent nécessairement des consommations d'énergie, de puissance électrique, entre autres, qui ont servi à les produire et qui continuent de servir pour les alimenter. Alors, c'est peut-être la première manière concrète de réduire notre empreinte environnementale, celui qu'à tous les usages, mais on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas grand-chose de fait pour voir cette sobriété prendre une forme légale qui permettrait peut-être de réduire la consommation. En fait, réduire cette consommation, c'est toute l'idée d'efficacité énergétique. Ça impose de rechercher à maximiser la durée de vie des produits, ce qui est déjà un énorme défi, vu l'application généralisée d'une sorte d'obsolescence programmée qui plombe pas mal de chaînes d'approvisionnement de produits commerciaux. Mais en ce qui concerne la consommation d'électricité, donc, il faut, plus particulièrement, il faut être conscient du fait qu'un appareil de chauffage peut consommer beaucoup plus d'électricité qu'un autre sur une année pour répondre aux mêmes réel besoin du chauffage d'un logement. Je pense au cas de la plainte électrique, par exemple, bien connue au Québec. La plainte électrique est une technologie de chauffage qui consomme beaucoup plus d'électricité que ce qui est requis par une pompe à chaleur à basse température, par exemple, aujourd'hui. D'accord. Les coûts ne sont peut-être pas les mêmes, mais les coûts, il faut regarder ces choses-là de manière critique aujourd'hui. Les choses évoluent, bien sûr. Chez Hydro-Québec aussi, il y a des programmes d'encouragement aux pompes à chaleur, mais il y a encore énormément à faire pour arriver à une sobriété,
oui,
notamment dans cet usage d'électricité, surtout quand on pense à la réalité d'un patrimoine bâti qui laisse beaucoup à désirer au plan de l'isolation, des infiltrations d'air. Hein. Il y a beaucoup qui ont été bâtis dans les années 60. Donc, la question de l'efficacité énergétique, ça reste le premier moteur de la planification des besoins énergétiques, de la décarbonation, mais le premier moteur de la sobriété.
Oui.
Il y a des coûts d'investissement importants pour y parvenir, mais ces coûts, ça sert l'intérêt commun d'un approvisionnement énergétique structurant, fiable, sécuritaire à long terme pour tout le monde. Il faut de l'énergie pour alimenter les besoins de tous les secteurs, mais il faut aussi chercher à minimiser autant que faire se peut ses besoins en recourant aux technologies et aux pratiques qui permettent d'y arriver. En fait, c'est l'image du ciseau qui résume plutôt bien cette notion de sobriété. En matière d'énergie, il faut travailler avec les deux bras d'un ciseau.
Okay,
le bras de l'efficacité énergétique des procédés qui permet de réduire les besoins en énergie en puissance, et le bras qui représente la capacité de planifier équitablement les besoins nécessaires aux usages de la vie courante. Alors, chacune des deux lames du ciseau est nécessaire pour arriver à maîtriser le projet de décarbonation et de réduction des besoins énergétiques. Et puis, on est rendu probablement au moment où il faut définir comment va fonctionner notre ciseau pour y arriver.
D'accord. Concernant le transport, je pense que vous avez des choses à dire parce que c'est la plus grande source de gaz à effet de serre.
Oui. Et puis, quand on écoute, j'écoutais ce matin à la radio les congestions dans toutes les routes qui arrivent à Montréal, je ne sais pas, je me suis dit que la sobriété, peut-être que ça voudrait dire aussi un retour au covoiturage, je ne sais trop, mais
oui.
Enfin, il y a une dépense énergétique de carburant fossile énorme encore aujourd'hui.
Mm-hmm.
Il y a eu des efforts pour intéresser les gens à l'achat de voitures électriques, mais c'est pas certain que, enfin, c'est loin d'être certain que la voiture solo sera une solution vraiment viable.
Mm-hmm.
On parle beaucoup de transport en commun aussi à développer,
mm-hmm,
à maintenir parfois même, à intercités et de toutes ces façons. Alors, c'est un autre des grands sujets à aborder dans la définition de la prochaine politique énergétique du Québec.
Oui.
Avec des outils clairs pour arriver à faciliter quoi, les déplacements équitables pour tout le monde. Quoi, pour
oui.
que les routes ne doivent pas servir qu'à ceux qui détiennent une automobile.
Oui.
Et ils ne servent pas beaucoup pour les autobus.
Je m'en venais ce matin en autobus, justement, et puis il y a un jeune qui était en vélo et qui a installé son vélo en avant de l'autobus, là, sur un endroit spécial. Puis après ça, il est rentré dans l'autobus. Puis... fait que c'est une manière hybride, je pense, de voyager en autobus et en vélo. Mm-hmm. Ça serait bon que la population suive les jeunes dans ce sens-là.
Certainement, c'est une très bonne idée. Ça se fait dans les métros aussi.
OK. Oui, à Montréal... là, il y a Sherbrooke, il n'y en a pas encore, mais il y en a qui parlent de tramway, peut-être. Puis, vous parlez, les plaintes de chauffage, oui. Et à la maison, est-ce qu'il y a d'autres choses que les plaintes de chauffage où on pourrait appliquer la sobriété dans les logements, quelque chose comme ça?
Il y a toujours la problématique de la pointe qui existe, et particulièrement dans les maisons qu'on qualifie de passoires énergétiques, c'est très problématique. Oui, il faudrait une rénovation du parc déjà en place. Et je ne sais pas comment, en pratique, il faut financer ça. Souvent, ce sont des logements qui font partie d'immobilier privé. Donc, il faut des incitatifs pour faire des changements dans ces niveaux-là, des puissants incitatifs, mais enfin, au bout du compte, toutes pourrait être économisé en les rénovant. Et par ailleurs aussi, en obligeant le code de construction des nouveaux édifices à avoir des à respecter des normes sévères d'isolation. Bon, on voit qu'il y a aussi des efforts dans la classification de la qualité d'isolation et d'infiltration des maisons. Là. Oui. Mais il faudra aussi donner les moyens d'améliorer les maisons existantes. Écoutez, c'est une vaste question qui va aussi coûter des sous.
Oui.
Mais c'est une question de politique publique, ça aussi.
Oui.
Et s'il s'agit de continuer à permettre indéfiniment que un gaspillage d'énergie pareil soit financé par la construction d'éoliennes ou de nouveaux barrages hydroélectriques ou de centrales nucléaires, je crois qu'on a un vrai problème.
D'accord. Je pense qu'on pourrait se laisser là-dessus, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur la sobriété en général, mais je comprends qu'il faut réduire à la source, même si on a une grosse quantité d'énergie.
Oui. En fait, c'est ça. L'autre idée, c'est que puisqu'on a déjà une société d'État Hydro-Québec qui s'occupe de planifier et d'orchestrer tout ce qui doit l'être pour produire, transporter, distribuer l'électricité au Québec, je peux terminer sur cette question. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore à ce jour une société d'État qui aurait la responsabilité d'atteindre les cibles de réduction de consommation d'énergie, d'efficacité énergétique dans les secteurs, dans tous les secteurs de consommation? L'histoire du Québec en matière d'efficacité énergétique est malheureusement une histoire de changement d'affectation gouvernementale qui a eu très peu de résultats. Quoi.
Oui, d'accord.
D'autres que moi pourraient la raconter en détail. Mais enfin, il faut envisager peut-être la création d'une société d'État de l'efficacité énergétique.
Okay.
Qui soit efficace et équitable, comme le mandat actuel d'Hydro-Québec. Mais c'est clair qu'Hydro-Québec est une nécessité criante aujourd'hui. Il est imprudent de penser qu'Hydro pourrait alimenter toutes les fantaisies énergétiques sans qu'on en paye collectivement le prix. Donc, il va falloir qu'on investisse dans les deux bras du ciseau, comme on dit.
Okay.
Et puis, il y a eu plein de consultations dans les dernières années, mais il y en a probablement besoin d'une autre pour aboutir à une nouvelle politique énergétique. Le Québec est quand même la juridiction la plus décarbonée du continent. Et il faut continuer en conservant Hydro-Québec comme le chef d'orchestre du projet de décarbonation efficace et équitable pour tous les citoyens du Québec.
Bon, mais d'accord, je comprends. Et on va essayer d'avoir la Société d'État d'efficacité énergétique. Je sais que le professeur François Delorme, économiste ici à l'Université de Sherbrooke, parle un peu en ce sens. Fait que je vous avais été très généreux, M. Saunier, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes co-auteur de L'éolien au cœur de l'incontournable révolution énergétique avec Réal Reid. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Ça va?
Merci beaucoup, M. Saint-Jean, de l'invitation.
Merci.
Bonne journée à vous.
Au revoir, bonjour. Rebonjour, ici Claude Saint-Jean pour l'émission À nous le futur. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs, chers auditrices. M. Bernard Saunier, que j'interviewais il y a quelques secondes, parlait de la sobriété énergétique. Et Chloé Lacasse, avec sa chanson « Les insatiables », je trouve que ça allait bien avec ça. Fait que là, j'ai le goût d'être optimiste. Je voudrais vous rappeler qu'il y a un article de Étienne Leblanc de Radio-Canada qui donnait la parole, entre autres, à François Delorme, l'économiste de l'Université de Sherbrooke. Le titre, c'est « Malgré la crise climatique, un meilleur demain est possible ». Alors, souvenez-vous de ça. Mettez-vous ça dans vos neurones à tout jamais. Et puis, pour vous communiquer aussi de l'optimisme, il y a Buckminster Fuller, que j'aime beaucoup, dont j'ai parlé quelques fois, là. Il dit dans une pièce de théâtre que j'ai vue à Montréal, qui s'appelait « Mémoire et mystère d'univers », il dit que l'homme agit à partir de l'idée erronée qu'il est un échec et qu'il doit prouver son droit à la vie, alors qu'au contraire, il a été créé par l'univers pour être une réussite extraordinaire. Alors, merci, Dr. Fuller. On croit en vous. L'humain et l'humanité sont créés pour être une réussite extraordinaire. On a peut-être un petit peu manqué de bateau des fois, mais on peut se reprendre. Et puis, là, je donne la parole, dans le même sens de l'optimisme, là, à Jane Goodall, qui a écrit le livre « De l'espoir ». Le titre, c'est « Pour un nouveau contrat social, une alliance est encore possible entre les humains et les écosystèmes ». Elle dit que, tu sais, j'appelle à un nouveau code moral universel pour relever les défis que font peser les menaces environnementales sur l'ensemble du monde vivant et redéfinir les liens entre l'humain et la nature. Alors, cette histoire de lien entre l'humain et la nature, ça me rappelle Labdeno Bidart, dont j'ai parlé aussi, qui a écrit dans son livre « Les tisserands » que nous devrions tisser des liens nouveaux avec nous-mêmes, avec, entre les humains et avec la nature. Et à la suite de Jane Goodall, j'aime bien parler de Christina Figueres, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Future We Choose, Surviving the Climate Crisis ». Alors, c'est très bien fait, c'est optimiste, tout en étant, n'est-ce pas, lucide. Là, il y a moyen d'être optimiste et lucide en même temps. Alors, il faut co-créer le futur, co-créer une nouvelle société décarbonée, et on est capable. Fait que finalement aussi, du côté Québec, encore une autre personne dont j'ai déjà parlé, mais c'est bon de le rappeler. Ça s'appelle « De la mondialisation au local, changer d'échelle pour décarboner la planète » de Jacques Laval, que je vous encourage à lire. Lui, c'est un... Je pense qu'il est ingénieur aussi. Il a enseigné à Montréal, puis là, il est à la retraite en Estrie. Il nous enseigne à créer nous-mêmes nos propres meubles. Par exemple, il avait un projet de faire un frigidaire avec des produits locaux. Fait que c'est très intéressant, Jacques Laval, de la mondialisation au local. Puis, je voudrais vous parler du livre vert pour une santé durable. Je crois que c'est français, mais néanmoins, c'est très important et c'est pertinent pour nous. Alors, l'agence Primum Non Nocere propose une vingtaine d'actions stratégiques pour mettre le développement durable au cœur du système de santé, visant ainsi à réduire les dépenses de santé tout en garantissant un système sûr aujourd'hui et pour les générations futures. On dit, ils disent, ces gens-là, en citant le rapport Stern, S-T-E-R-N, que le coût de l'inaction coûterait de 5 à 20 % du PIB, alors que l'action contre le changement climatique coûterait à peine 2 %. Et puis, ils ont des axes d'intervention. Premièrement, c'est investir dans la prévention. Par exemple, c'est bâtir une stratégie nationale très stricte sur les perturbateurs endocriniens, les nanoparticules et les champs électromagnétiques. Ça me rappelle le livre dont je vous ai déjà parlé. Là, je fais une synthèse de tout ce que je vous ai dit, là, parce qu'il reste 3 émissions jusqu'en septembre prochain. Il va y avoir une pause cet été. Alors, je vous avais parlé du livre « Le livre de la réduction de la maladie », qui est dans Internet seulement, un livre québécois, qui rejoint l'axe 1, investir dans la prévention. L'axe 2, c'est faire évoluer le bien-être, la santé et la formation initiale des professionnels. Par exemple, garantir la sûreté, la sécurité et la cybersécurité. Et l'axe 3, c'est soutenir et promouvoir la recherche et le développement en santé. L'axe 4, c'est réinventer la gouvernance. Par exemple, l'éco-conditionnalité des subventions et financements, miser sur une alimentation saine et locale. Et l'axe 5, c'est l'horizon 2050, une politique à long terme aux objectifs ambitieux. Par exemple, mieux encadrer la consommation et la quantité et la qualité de l'eau pour lutter contre l'antibiorésistance. Fait que ces gens-là nous suggèrent d'imaginer un super ministère d'État regroupant les ministères de la santé et de l'environnement doté de budgets pluriannuels. C'est bien sûr qu'on peut faire ça, mais sans oublier l'idée qu'au Québec, entre autres, là, il est important de se décentraliser. Alors là, je fais référence au livre de Roméo Bouchard et André Larocque qui s'appelle « Décentralisons-nous », que j'ai dans mon sac en ce moment, que je suis en train de relire. Fait que c'est une bonne affaire. Et puis, dans ce livre-là, il parle justement de l'initiative populaire, c'est-à-dire que dans la réforme de la démocratie, on pourrait demander... que, disons, de 1 à 2% de l'électorat fasse une demande au gouvernement pour soit ajouter une nouvelle loi, soit retirer une loi ou un règlement qui ne va pas. Et puis, il y aura un référendum à ce sujet-là. En Suisse, ça existe bien, tu sais, l'initiative populaire. Dans plusieurs pays, ça existe. Dans des municipalités au Québec, ça n'existe pas. Et pourquoi pas à Sherbrooke, peut-être que ça pourrait venir comme ça. Là, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle... Place aux littératures autochtones de Simon Harel, dont j'ai entendu parler et je vois beaucoup de bien dans ce livre-là. Et puis, c'est une manière d'introduire, peut-être en septembre prochain, je dis peut-être, parce que je suis en train de travailler un programme là, de 16 émissions au sujet des Premières Nations. Nous avons 11 Premières Nations au Québec. Il pourrait y avoir une émission par Première Nation. Alors, je vais consulter les conseils de bande si je peux interroger quelqu'un. Puis, je vais commencer ici là, le 22, 23, 24 mai à l'Agora de l'Université de Sherbrooke. Il y aura un colloque sur l'écrit et l'imprimé autochtone. Alors ça, c'est très bien, puis ça va m'aider à commencer. Puis, je voudrais vous parler d'un livre qui n'est pas datant de 2024, là, c'est peut-être 2020. Ça s'appelle de Jean-Claude Léonide, qui est un biologiste. C'est « L'évolution de l'amibe au cerveau humain en perspective élargie ». C'est un livre très optimiste qu'il fait bon de lire. Il dit, en résumé à l'endo, « Ce livre documentaire s'adresse à tout public désireux de se cultiver et s'interrogeant en ces temps compliqués sur le sens de la vie et son avenir sur cette planète Terre. Ce n'est pas un cours de zoologie évolutive, c'est plutôt un roman, celui de la vie dont est issu le cours. Il raconte la plus fantastique des aventures jamais vécues. Il est basé sur des faits réels assez extraordinaires. C'est un livre de réflexion, un regard nouveau, jeté sur des faits de diverses natures que l'auteur a rassemblés. La vie, une et multiple à la fois, ne saurait se laisser morceler sans y perdre son identité. Ce mémoire d'histoire naturelle en suivant les chemins parcourus par la vie, en ce qu'elle offre de plus animé, l'animal, cherche à en percevoir le sens et la destinée, de Jean-Claude Léonide, donc. À trouver, à lire. Et puis, pour décarboner le monde, n'est-ce pas? Il y a un livre dont j'ai déjà parlé aussi, qui s'appelle « Le grand livre du climat », édité par Greta Thunberg. Je pense que c'est 2024. Et puis, il y a 100 collaborateurs, collaboratrices qui ont écrit dans ce livre-là. Puis, ce matin, je l'ouvrais au hasard et je suis tombé sur exactement ce qu'il fallait. C'est à propos de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on propose de changer au complet, réformer le système alimentaire. Et l'autrice dit que un consensus scientifique existe sur les moyens de mettre en œuvre l'inversion, c'est-à-dire que l'alimentation soit une source de GES à qu'elle devienne un puits de carbone. Alors, dans ce sens-là, j'ai retrouvé un livre que j'avais dans ma bibliothèque. Ça s'appelle « Ça chauffe dans nos assiettes, des recettes pour sauver le climat ». J'avais quelques citations que j'espère que je vais trouver rapidement. Fait que sur les 10 secteurs d'activité les plus menacés par le changement climatique, 5 concernent l'alimentation. Ce sont l'agriculture, la pêche, les forêts, l'élevage et la viticulture. Notre assiette, dit l'auteur, dégouline de pétrole et de gaz et même de charbon, mais nous n'y prêtons pas attention. Les énergies fossiles, le pétrole en particulier, infligent à notre nourriture une double peine, climatique et toxique, donc sanitaire. Alors, OK. Bon, évidemment, il y a une promotion de l'avenir biologique, de l'agriculture biologique, et on dit que l'avenir dépend de nous. Fait qu'un jour ou l'autre, le changement climatique imposera de facto la diète carbone. Autant ne pas attendre pour regarder nous-mêmes vers le futur et se décider à co-créer un bon futur. Et puis, il donne une liste de 18 légumes qui pourraient faire des salades intéressantes et où on pourrait mettre des crevettes. Fait qu'il fait une promotion du régime crétois, dont on entend parler, là, le régime végétarien méditerranéen, qui est source de santé. Alors, ici, quelques citations, par exemple. Les fruits et les légumes représentent 25 % de notre consommation, mais seulement 10 % des émissions de gaz à effet de serre générées par notre alimentation. Chaque année, un tiers de la nourriture produite dans le monde est jetée sans être consommée, soit 1,6 milliard de tonnes. Acheter des produits surgelés multiplie l'empreinte carbone par 2. Également, il faut 25 kilocalories d'énergie fossile pour produire 1 kilocalorie de protéines animales, 2,2 kilocalories d'énergie fossile pour produire 1 kilocalorie de protéines végétales. Et l'alimentation représente 27 % de l'empreinte carbone des Français. Alors, comme dit l'auteur, là, l'empreinte carbone, au lieu d'être une source de GES, l'agriculture, pourrait être un puits, c'est absorber du carbone. Alors, je vous laisse là-dessus. On revient un petit peu plus tard, publicité et musique. Oui, bonjour. À nous le futur, je vous parle par Claude Saint-Jacques, qui est moi-même. Ça fait que je voudrais vous dire un petit mot sur René Lévesque, Un héritage démocratique toujours d'actualité. C'est un livre d'André Larocque. Il parle de l'importance du mode électoral parce que, voyez-vous, aujourd'hui, là, ces temps-ci, ben, tu sais, ces décennies-ci, là, à cause du mode électoral, un très faible pourcentage de vote électoral, à cause du mode de scrutin, peut faire élire des gouvernements majoritaires. Alors, ça fait que ce sont des gouvernements qui ne représentent pas vraiment la population. Donc, pour éviter ça, M. André Larocque, qui a été professeur à l'UNEP, ou l'UNAP, à l'Université de Montréal, dans une constitution québécoise, là, à l'article 12, il proposerait que le système électoral assure que les partis politiques obtiennent la proportion de sièges à l'Assemblée nationale correspondant au vote populaire reçu. Donc, c'est tout simple, mais c'est ça qui est ça, qui augmenterait la démocratie. Et puis, vous avez des partis politiques. Hein? Monsieur Larocque a parlé de l'usurpation du pouvoir ou par les partis politiques. Fait que, à part des partis politiques, il existe des gens qui sont des sans-partis. C'est-à-dire qu'ils mettent dans leur tête, et ils aimeraient que le Québec fasse pour le vrai, là, une pause, dans le sens que c'est une plateforme électorale non-partisane qui pourrait être adoptée par notre prochain gouvernement. Il y a 5 aspects que propose cette plateforme électorale non-partisane qui provient du mouvement Démocratie et citoyenneté québécoise que vous pouvez trouver facilement dans Internet. Alors, je répète, c'est le mouvement Démocratie et citoyenneté québécoise. La première chose qu'ils veulent, que ce mouvement veut, c'est l'accélération de la mise à jour de nos grands réseaux sociaux de solidarité sociale, comme la santé, l'éducation, l'enfance, la famille, les aînés, le logement, l'emploi et l'énergie. Ça coûte des sous, me direz-vous, mais il y a moyen d'en trouver. Deuxièmement, c'est donner la parole au peuple québécois lui-même, en redéfinissant le rôle et le financement des partis politiques, en instaurant un scrutin proportionnel régional, en rendant accessibles l'initiative et le référendum populaire, en procédant à une décentralisation politique et économique et en créant le Grand Conseil Québec Première Nation. Quand il dit ici le scrutin populaire régional, ça me rappelle que dans le livre « Décentralisation » dont je vous parlais il y a 5 minutes, que Roméo Bouchard et André Larocque suggèrent qu'il y ait des gouvernements régionaux élus par la région. Troisièmement, ce serait assurer l'avenir et la fierté du peuple québécois en instituant une citoyenneté québécoise, en protégeant adéquatement la langue commune, en exigeant le plein pouvoir sur l'immigration, en privilégiant l'intégration de la diversité. Quatrièmement, le mouvement de démocratie et citoyenneté québécoise s'engage résolument dans la transition écologique en se dotant d'un cabinet ministériel réduit et d'un conseil d'experts indépendants pour gérer la transition écologique et en privilégiant une économie et des communautés autonomes et durables plutôt que la concentration et le libre-échange sans condition. Et finalement, cinquièmement, ce mouvement souhaite doter le Québec d'une constitution bien à lui en convoquant une assemblée constituante citoyenne représentative du peuple québécois, mandatée pour proposer un projet de constitution devant être approuvé par le peuple québécois dans un référendum national. Et cette assemblée constituante serait tirée au sort. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, « Mais voyons donc, penses-tu que quelques personnes tirées au sort vont décider de l'avenir du Québec, s'il veut être indépendant ou non? » Bien non, bien effectivement, c'est pas ça le cas. Il y a une assemblée constituante, oui, qui est tirée au sort, mais elle fait le tour du Québec, elle consulte les gens, elle fait des forums dans chaque région, dans le plus grand nombre de villes possible. Et après ça, il va y avoir une synthèse et ça va être soumis à un référendum. Bon. Alors, on a parlé d'éolien. Je voudrais vous dire que M. Roméo Bouchard a écrit un livre qui s'appelle « L'éolien pour qui souffle le vent » en 2007. puis ça a été fini d'écrire en 2017 parce qu'il a consulté beaucoup de gens lui aussi. Alors, c'est une autre source de savoir intéressante concernant l'éolien et l'énergie. Et puis, je voudrais vous dire que, en fouillant dans mes documents, j'ai trouvé un ancien livre que j'ai lu et beaucoup apprécié. Ça s'appelle « Le calice et l'épée ». Et je ne me souviens plus du nom de l'autrice. Ouais, je n'ai pas le nom de l'autrice. Mais c'est très facile à trouver, là. C'est « Le calice et l'épée ». Donc, elle dit là-dedans, elle explore le matriarcat. Et elle nous décrit les bienfaits du matriarcat et nous disant qu'il y a eu un matriarcat pendant 5000 ans, pendant lequel il n'y a pas eu de guerre. Alors, c'est une très belle source d'inspiration, le livre « Le calice et l'épée ». Et parlant de matriarcat, vous savez que les Iroquois, il y a un nom plus poli que les Iroquois, je l'ai oublié, parce que j'ai moi-même suivi des cours à l'Iroquoisie pendant 6 mois sur la langue iroquoise. Et tout ce que j'ai appris, ce n'est pas « bonjour, comment ça va », c'est la langue juridique de la constitution iroquoise dans laquelle il y avait le matriarcat. Et puis, ce matriarcat, vous savez où, cette constitution iroquoise, elle a inspiré les États-Unis, sauf qu'ils ont mis de côté le matriarcat. Je voudrais vous dire aussi que l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, ils ont déposé un mémoire conjoint à l'Office de consultation publique de Montréal dans le cadre de la consultation publique sur le projet de ville vers un plan d'urbanisme et de mobilité. C'est en 2022. Alors, pitonnez AQME, Association québécoise des médecins pour l'environnement, ça donne de très bonnes idées sur comment faire une ville verte. Et en parenthèse, j'étais à Sercovie hier soir. La ville présentait ses intentions à propos d'une politique de l'arbre. Il y avait le groupe ACEV, c'est l'Association citoyenne Espace vert de Sherbrooke, ainsi que la ville de Sherbrooke, par deux fonctionnaires et une conseillère municipale aussi, Mme Belle-Rose, qui ont parlé des bienfaits des arbres et de la politique de l'arbre qui s'en vient. Puis il va y avoir une autre réunion le 16 juin. Alors, l'émission va être terminée le 16 juin, mais soyez à l'écoute, à l'affût, pour les informations sur la nouvelle politique de l'arbre qui s'en vient. Les arbres, je vous rappelle, ont des paquets de bienfaits, dont absorber le carbone, mais pour notre santé physique et mentale, exactement aussi. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il existe... de la part de l'Association pour la santé publique du Québec, un document qui s'appelle « Reconnaître le droit à la santé ». Et mon nom est Claude Saint-Georges. Je vous reviens un petit peu plus tard après cette musique. D'accord, Bardot, toi qui chantes le temps, quand vient le temps, je te remercie et je compte sur toi. Alors, ici Claude, à nous le futur. Et je voudrais vous parler dans cette fin d'émission là, d'un médecin qui travaille en neurocardiologie. Alors, c'est un nouveau champ médical, à partir du fait que les constatations scientifiques nous disent que non seulement nous avons un cerveau dans la tête, mais nous avons un cerveau dans notre cœur. Le cœur est un cerveau. Et John Andrew Armour, qui est médecin à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, est un spécialiste de ça. Et j'adorerais l'interviewer. Et je pense que ça va se passer en septembre prochain. Alors, surveillez ça. Là. En attendant, là, pitonnez neurocardiologie ou bien HeartMath, HEARTHMOTH. C'est une sorte de méditation nouvelle qui consiste en, disons, dans une inspiration. Vous dirigez le souffle vers le cœur pendant 5 temps. Vous comptez, disons, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Et puis, l'expiration, c'est aussi long. C'est un temps égal en longueur. Et puis, ce genre de méditation produit beaucoup de bienfaits au corps. Vous faites ça pendant 5 minutes. Donc, c'était la neurocardiologie de John Andrew Armour, basée sur le fait que le cœur est un cerveau. Maintenant, je vous parle du théâtre. Il y a, disons que c'est la chronique hors écologique de cette semaine. Il existe le théâtre d'intervention au Québec, qui est une pratique plurielle et qui a plusieurs défis. Donc, c'est Maureen Martineau qui écrit à propos du Comité permanent en théâtre d'intervention, le CPTI. Donc, le Comité permanent en théâtre d'intervention. Qu'est-ce que le théâtre d'intervention? Par exemple, c'est une multitude d'expériences théâtrales qui visent le développement de la personne et des communautés. Ce sont des démarches théâtrales collectives qui incluent les publics dans les processus de création et de représentation. Et c'est un développement de réseaux de diffusion alternatifs. Il y a des formes, par exemple, le théâtre forum, le théâtre interactif, le théâtre documentaire, le théâtre de rue, le théâtre manifestif, le théâtre muséal, forain et pageant historique. Donc, c'est un théâtre qui a une mission artistique associée à une mission sociale. C'est venu surtout après la démobilisation de la gauche au Québec, suite au désenchantement de la chose politique consécutive au premier échec référendaire. Donc, le théâtre d'intervention est un art vivant qui aide, par l'éducation populaire, à tenter de renforcer la démocratie. Alors, si ça vous intéresse, allez voir ce théâtre-là qui s'appelle... Puis d'ailleurs, à l'Université Laval, là, vous avez un cours qui s'appelle « Intervention théâtrale et animation sociale ». Fait que Internet, c'est le Comité permanent en théâtre d'intervention, le CPTI. Un petit mot maintenant sur la communication non-violente. C'est tout un champ, ça aussi, hein, la communication non-violente. Il y a, par exemple, ces quatre étapes qu'il faut faire là, pour se pratiquer le processus de CNV, qui s'appelle. Il faut observer, observer comment on se sent. Ensuite, on nomme les émotions qu'on ressent. On nomme aussi les besoins qu'on ressent et on fait une demande. Ça, c'est la quatrième étape. Donc, c'est quoi les besoins qui nous animent? Vous avez l'autonomie, la célébration, l'intégrité et l'interdépendance. Des sentiments de base, par exemple, il y en a une liste, là. Être comblé, être confiant, être ému, être étonné, être intrigué, optimiste, plein d'assurance, plein d'énergie, soulagé, stimulé, respect, ou bien vous avez aussi des sentiments liés à des besoins non satisfaits, donc affligé, apeuré, découragé, tout ça, donc. Fait que, voilà, c'est un autre champ à explorer pour arriver à la paix, arriver à un beau futur. Et il y a des livres de M. Marshall qui s'appellent « La communication non-violente », j'en ai quelques-uns. Et puis, ça fait longtemps que je pense à vous parler de neuropédagogie. Évidemment, on n'a pas le temps à 11h54. Mais en gros, c'est apprendre à apprendre, apprendre à penser, apprendre à augmenter l'efficacité cognitive ou l'efficience cognitive. Et en dernier lieu, c'est enseigner en fonction des sortes d'intelligence. Et j'aurai le plaisir d'interviewer la semaine prochaine le professeur universitaire M. Cornette, qui a développé une manière originale de neuropédagogie. Alors, je termine l'émission avec ça. Je vous souhaite une très, très bonne semaine, une excellente santé, beaucoup de calme, de relaxation, à commencer par moi-même, beaucoup de joie associée à cette détente. Et puis, la santé, bien, ça vient avec la marche. Ça peut être l'apprentissage du tai chi, qui donne beaucoup de bienfaits, ou du qigong. Ce sont des gymnastiques douces qui sont bonnes pour la santé tout en n'étant pas très consommatrices d'énergie. OK? Alors, merci. Ici Claude Saint-Georges pour l'émission « En nous le futur ». Je vous souhaite tout le bien que vous êtes capable de vous donner. Bonne journée.